ONU, OMS ou encore CICR, les organisations internationales présentes à Genève font souvent la fierté de la population locale, mais une population qui ne sait pourtant pas toujours très bien ce qui se passe concrètement dans la Genève internationale. Le magazine 15 minutes s'est penché sur ce paradoxe. Écoutez.
L'attention et la popularité de la Genève internationale est souvent inversement proportionnelle à l'importance des sujets qui s'y discutent. On a vraiment des décisions très concrètes de la santé, où on l'a vu pendant la pandémie, jusqu'au monde du travail, en passant par le commerce, en passant par des organes qui règlent des standards sur votre shampoing au quotidien. Donc il y a vraiment tout un éventail qui est parfois assez méconnu. C'est sûr qu'on est à l'ère de TikTok et des réseaux sociaux. C'est plus compliqué d'intéresser notamment les jeunes. Mais en même temps, ce dont on parle, les nouvelles technologies, la gouvernance d'Internet, la gouvernance de ces réseaux sociaux, à un moment donné, elle passera probablement par Genève aussi.
Le regard de Laurent Sierrault, il est journaliste à l'ATS, il couvre la Genève internationale. C'était un extrait de notre magazine de reportage 15 minutes que vous retrouvez sur RTS Play. Bonsoir Olga Hidalgo-Weber.
Oui, bonsoir.
Vous êtes chargée de cours en histoire contemporaine au département d'histoire et au Global Studies Institute de l'Université de Genève. Vous êtes par ailleurs l'autrice de la SDN à l'ONU, 100 ans de multilatéralisme à Genève entre 1919 et 2019. C'est aux éditions Suzanne Urter. Alors, on va aborder avec vous cette méconnaissance de la Genève internationale sous un angle historique. Est-ce que ça a toujours été le cas? Vous me disiez en préparant cette émission qu'au début, les Genevois s'intéressaient beaucoup à ce qui se faisait dans leur ville.
Oui, oui, c'est juste beaucoup. Je ne sais pas, mais en tout cas...
Un peu plus, alors.
Un peu plus. Ce qui est certain, c'est que le début de la Genève internationale, moi, je la fais remonter, en fait, à l'installation de la Société des Nations à Genève. On est donc en 1920. Et à ce moment, c'est un petit événement, en tout cas pour les Genevois. Et en fait, la grande nouveauté avec cette Société des Nations, si vous voulez, c'est qu'avant, au XIXe siècle, la diplomatie, c'était quelque chose de secret qui se faisait un peu entre rois. C'est ce qu'on appelait la diplomatie de cour. Et puis là, tout d'un coup, ce sont des grandes réunions qui deviennent publiques. Et les Genevois peuvent assister au débat de cette Société des Nations. Et puis toute une série de grands hommes politiques se rendent à Genève. Et vous avez en fait des archives filmées de cette époque qui sont assez extraordinaires, où on voit les Genevois justement se presser à l'arrivée de ces hommes politiques. Alors peut-être qu'il y avait aussi moins de distractions à cette époque-là, mais en tout cas, il y avait un véritable engouement les premières années de cette Genève internationale.
Il n'y avait pas TikTok à l'époque, peut-être, c'est ça la différence, Olga Hidalgo-Weber. Il y a cette différence. Oui. Les sommets, finalement, ils ont toujours intéressé les gens, rien que parce que, voilà, quand on est à Genève, il y a des bouchons, il y a des secteurs qui sont bouclés, etc. Et puis on voit les grands de ce monde à Genève, et puis il y a le travail peut-être un peu plus silencieux, un peu plus discret, au jour le jour de cette Genève internationale. Cette distinction, elle s'est manifestée aussi très tôt.
Oui, oui, vous avez tout à fait raison de faire cette distinction, c'est-à-dire que on a vu là pour les récents sommets entre Biden et Poutine qui a paralysé la ville, donc forcément c'était dur de pas être au courant. Depuis déjà l'après 1945, vous avez toute une série de grandes rencontres. On peut citer par exemple celle qui a lieu en 1985 entre déjà les présidents américains Ronald Reagan et le dirigeant de l'URSS de l'époque, Mikhail Gorbatchev. C'était une réunion très importante qui s'est déroulée sur le sol genevois. Importante parce que on considère que c'est un peu la première rencontre qui va permettre ensuite le dégel et la fin de la guerre froide. Et puis c'est une réunion qui va permettre justement à tous les aspects politiques des Nations Unies de se relancer. Puisque vous le savez peut-être, l'URSS a posé très souvent son veto à de nombreuses décisions. Et là, il va y avoir un renouveau de collaboration entre ces deux pays. Et puis, il y a aussi d'autres réunions qui ont lieu par exemple sur le conflit syrien, des réunions sur le nucléaire et autres. Et puis donc ces événements, je pense évidemment qu'ils suscitent eux l'intérêt des Genevois, et ils sont à distinguer évidemment de tout le travail journalier qui se fait à l'ombre dans toutes ces organisations internationales. Et là, c'est vrai que les choses sont plus techniques, quoique par exemple, on l'a vu hein, quand il y a eu cette crise du Covid-19, là tout d'un coup on a beaucoup parlé de l'Organisation Mondiale de la Santé, et les Genevois et le monde entier s'est rendu compte de l'importance peut-être de cette organisation. Donc un travail plus technique, mais qui mérite d'être connu, puisque on y parle par exemple des droits humains, on discute de la question des réfugiés, de l'éducation, bien sûr de la gouvernance d'Internet, et puis surtout également des questions climatiques.
Ouais, on parle parfois de la Genève internationale comme d'une ville dans la ville. Ça, est-ce que durant ces 100 années que vous couvrez dans votre ouvrage, ça a été toujours le cas ?
Oui, c'est-à-dire que au début, le choix de Genève n'était peut-être pas forcément évident. Et puis, le fait de choisir Genève comme centre de ces organisations internationales, ça a nécessité toute une infrastructure. Hein. C'est de cette époque que date aussi la création de l'aéroport de Genève. Il a fallu agrandir la gare, il y a tous les nouveaux bâtiments. Et c'est vrai que peut-être c'est surtout dans l'après 45, avec toutes ces nouvelles organisations internationales qui s'installent véritablement à Genève, que ça devient un centre en soi, et puis qui attire aussi de nombreuses, il faut pas oublier, de nombreuses ONG et de nombreux lobbies du coup qui s'intéressent à toutes ces réunions qui ont lieu à Genève et qui peut-être créent un monde dans la ville en soi.
Je vous propose d'écouter un autre extrait de notre magazine de reportage 15 minutes. On est cette fois avec Raymond Loretan. Il est président du Club diplomatique de Genève, qui veut notamment favoriser le développement des relations entre la communauté internationale et l'État hôte. Il évoque l'attention apportée aussi au-delà de Genève. Écoutez.
Globalement, on peut dire, si on voit aussi les subventions que vote Berne en faveur de la Genève internationale, il n'y a pas une aversion. Il y a un manque de connaissances. Et ça, c'est notre travail aussi d'aller à Berne, d'aller à Zurich, d'aller au Tessin pour expliquer encore plus l'impact de cette Genève internationale pour la Suisse, l'instrument de politique étrangère extrêmement important que c'est.
Olga Hidalgo-Weber, la diplomatie internationale a joué un grand rôle pourtant dans le développement de ce pays, dans le regard aussi que nous portent les grandes puissances. Rappelons que nous avons été épargnés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Malgré cette importance de la diplomatie et donc de la Genève internationale pour la Suisse, il y a une certaine méconnaissance, une distance parfois dans certaines périodes entre Berne et Genève. Il y a un paradoxe là.
Oui et non. Je pense que il y a plusieurs choses dans votre question. Il y a d'abord une façon, je pense, de mieux faire connaître cette Genève internationale. Donc, ça passe par du lobbying politique, ça passe aussi par la voie idoine de la communication. Il y a toute une série de conférences qui sont organisées justement par le club diplomatique, ou puis par exemple par le Forum suisse de politique internationale. Et puis je pense qu'il y a aussi la seconde voie pour faire connaître cette Genève internationale, à mon sens, c'est quand même l'éducation. Et n'oubliez pas qu'il y a de nombreux cursus hein, sur la Genève internationale qui existent, que ça soit d'abord à l'Université de Genève ou par des associations, par exemple comme Eduki, qui se charge de sensibiliser là plutôt les élèves du secondaire. Et n'oubliez pas d'ailleurs que l'Institut universitaire de hautes études internationales, hein, qu'on appelle maintenant le Graduate Institute, il a été créé justement dans les années 1920 afin de donner, en fait c'était les premiers cours en relations internationales. Et c'était précisément dans l'idée de former des esprits pacifiques parmi la jeunesse. Et donc, c'est quelque chose qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Donc ça, c'est peut-être plus l'aspect pour faire connaître la Genève internationale. Et puis, alors au niveau peut-être plus politique aujourd'hui et moins historique, on a quand même la chance d'avoir la Suisse qui soit membre du Conseil de sécurité hein, pour 2 ans. Elle a été élue pour 2023 et 2024. Et c'est là le rôle de Berne. Et je sais qu'il a plusieurs ambitions pendant ces 2 années où il va siéger au Conseil de sécurité, donc à New York. Et une de ses ambitions, eh ben, c'est justement l'occasion rêvée de faire connaître la Genève internationale et de mieux valoriser peut-être son rôle auprès d'autres pays.
Merci beaucoup, Olga Hidalgo-Weber, d'avoir passé quelques instants avec nous pour évoquer l'histoire de la Genève internationale. Vous êtes chargée de cours en histoire contemporaine au département d'histoire et au Global Studies Institute de l'Université de Genève. On vous souhaite une excellente soirée.
Merci à vous, bonne soirée également.
Et le reportage de nos collègues de 15 minutes est à retrouver sur notre plateforme RTS Info et sur RTS Play.